comme on le fait à tous les soirs, on va d'abord vous informer avec ce qui a marqué l'actualité aujourd'hui. Et c'est le gouvernement Legault et les infirmières, parce qu'on a annoncé un plan assez majeur. 1 milliard $ pour résoudre la pénurie d'infirmières dans le réseau public de la santé, notamment faire passer de 60% à 75% les infirmières qui travaillent à temps plein. Étant donné que la réorganisation récente des conventions collectives, ça va mettre des mois à donner ses résultats, ben il y a des mesures incitatives qui sont annoncées aujourd'hui. On veut retenir et attirer du personnel dans nos hôpitaux. On parle de bonis de 12 000 à 18 000 $ qui seront donnés pour favoriser l'occupation de postes à temps plein, pour ramener au public des retraités, peut-être des infirmières qui sont parties travailler dans les agences privées. On va écouter à ce sujet le premier ministre François Legault.
On a très bien compris que l'essentiel pour les infirmières, c'est pas l'argent, c'est la qualité de vie, c'est d'être capable d'arrêter d'avoir du temps supplémentaire obligatoire, d'avoir de la prévisibilité. Puis notre objectif dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, faut que le réseau public de la santé soit la meilleure place pour les infirmières pour travailler.
Il s'agit là d'une sorte de passerelle, selon les mots du premier ministre François Legault, en attendant l'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives négociées principalement avec la FIQ. Vendredi dernier, on était avec Dr Laberge pour Parlons-nous santé. On a ouvert les lignes. La question, c'était: quelles sont vos idées pour ramener les gens dans le système de la santé? C'est pas l'argent qui est ressorti.
Non, hein?
Les conditions de travail. Il y en a beaucoup qui voulaient qu'on imite le système anglophone avec le système de 3 jours, 12 heures. Donc, c'est vraiment les conditions de travail, le temps supplémentaire obligatoire aussi.
Ça aussi, c'est beaucoup revenu. Ouais,
c'était le gros problème. Les incitatifs concernent aussi les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes. Et les sommes sont plus généreuses là où les besoins se font le plus sentir. On écoute à nouveau le premier ministre.
Il y a 5 régions où il y a des problèmes particuliers. L'Outaouais, parce que il y a la compétition d'Ottawa puis de l'Ontario. L'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord du Québec, puis la Gaspésie et de la Madeleine. On va offrir un boni aux infirmières qui sont déjà à temps plein de 18 000 $ puis les infirmières qui acceptent de revenir à temps plein dans ces 5 régions vont avoir un boni de 15 000 $
Maxime, au niveau des réactions, il y a le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui, lui, affirme que la réorganisation du travail, ben, c'est la clé contre la pénurie de personnel dans le réseau public de la santé. Luc Mathieu, il espère que les incitatifs financiers annoncés aujourd'hui, ben, ce sera une passerelle assez solide pour y arriver. Mais il a aussi relevé des points positifs dans le plan présenté par le gouvernement.
Il est dégagé d'activités là, qui ne sont pas propres à une infirmière, comme par exemple tout ce qu'on appelle prépasserie, là, qui ne sont pas de l'ordre de la note clinique. Le fait de vouloir introduire des agentes administratives, là, on parlait de 3 000, ça c'est une bonne chose. La décentralisation aussi au niveau de la gestion des horaires, permettre aux infirmières d'une unité de soins de convenir entre elles, bon, comment se répartissent les horaires. C'est beaucoup plus flexible que d'avoir quelqu'un des ressources humaines qui est à 150 km d'un building, qui décide la gestion des horaires.
Et quant aux syndicats, la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération de la santé du Québec accueillent positivement le plan de Québec. Les deux organisations syndicales estiment que leur message a été entendu. La CSQ se réjouit notamment que les incitatifs concernent aussi le personnel restant en place. La FSQ est satisfaite de l'engagement de créer un comité de travail sur les enjeux de l'attraction-rétention, la conciliation travail-famille et la stabilité des postes.
Maintenant, le gouvernement Legault qui a déposé ce matin un projet de loi qui va encadrer les manifestations anti-vaccins. En fait, on veut interdire toute manifestation de ce type-là à moins de 50 mètres des garderies, des écoles primaires, des écoles secondaires, de tous les établissements de santé, des cliniques de vaccination et centres de dépistage de la COVID-19.
La députée Claire Samson, dont le Parti conservateur s'oppose aux mesures sanitaires, s'est levée en chambre lors du débat sur le projet de loi pour faire part de ses préoccupations.
Avec un cercle de 50 mètres, là, il n'y a plus de possibilité dans une ville comme Montréal de faire une marche de protestation qui va d'un quartier à l'autre, parce qu'il est évident que d'un quartier à l'autre, là, vous allez croiser une garderie ou un hôpital ou une école.
Il y a une enseignante non vaccinée qui aurait déclenché une éclosion. Ça s'est passé dans une école de Montréal et selon ce qui a été rapporté, l'enseignante en question ne portait pas le masque, incitait les élèves à ne pas le porter non plus. La députée libérale Marois Risky a reproché au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de ne pas avoir imposé la vaccination obligatoire au personnel enseignant. On écoute M. Roberge, suivi de Mme Risky.
La santé publique à ce jour, ne nous a pas recommandé la vaccination obligatoire dans le milieu de l'éducation.
Parce que le ministre de l'Éducation a oublié qu'il était ministre de l'Éducation puis il n'a pas demandé l'avis là-dessus à la santé publique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas son travail.
Et l'enseignante en question sera défendue par l'Alliance des professeurs de Montréal. Sur nos ondes, la présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal, Catherine Beauvais-Saint-Pierre, a indiqué que c'était le devoir du syndicat de défendre ses membres.
On défend au niveau de la loi. Donc, c'est le code du travail. Si on le fait pas, on s'expose à des poursuites qui coûtent des milliers et des milliers et des milliers de dollars.
Presque à la fin de l'enquête du coroner sur les décès de 47 personnes au CHSLD Huron, il y a certaines familles de disparus qui ont pris la parole aujourd'hui. Ces familles-là qui réclament que le gouvernement mette fin au CHSLD privé au Québec. Pour elles, on peut pas concilier des bons soins aux aînés malades et rechercher des profits à la suite du chaos qui a conduit aux multiples décès, 47 au début de la pandémie. Les familles ont relevé une longue liste de problèmes, comme par exemple le manque de communication avec les proches des résidents et les centres hospitaliers, le manque de matériel et le manque de formation des anciens gestionnaires.
Et alors que la coroner a décidé d'ajouter 3 jours d'audience à son enquête pour bien comprendre les circonstances des décès, les familles affirment que plusieurs questions sont encore sans réponse. La coroner Guéanne Kamel souhaite entendre ou réentendre au moins 4 personnes avant de rédiger son rapport. Elle visionnera aussi les vidéos de surveillance du CHSLD pour savoir s'il est vrai que des employés ont littéralement abandonner leurs patients en pleine nuit à la suite de la confirmation des premiers cas de COVID-19.
On a eu des développements dans ce drame survenu du côté de Elmer au cours des dernières heures. Les enquêteurs de la police de Gatineau qui ont conclu hors de tout doute que les 2 fillettes retrouvées sans vie hier ont été victimes d'un homicide commis par leur père tôt dans la même journée. Il s'agit donc d'un double meurtre suivi d'un suicide. Les victimes sont Orly Kepacha, 3 ans, et Liel Ka Pacha, 5 ans. La police qui indique que les corps des fillettes ne présentaient pas de marque de violence.
Le père s'appelle, quant à lui, Osodom Kepacha. Il avait 51 ans. Au cours des dernières semaines, les autorités s'étaient déplacées à au moins une occasion à cette résidence, selon le voisinage.
Il s'était séparé avec sa femme il y a quelques mois. Il y a eu un petit achalandage entre les deux il y a 2-3 semaines passées. La madame était en sanglots dans l'entrée. Puis ils sont arrivés, ils étaient voir les enfants, tout était beau. Puis là, ils l'ont embarqué, ils allaient au poste. Puis le lendemain, même la soirée, et moi, il est revenu. C'est troublant, surtout pour les enfants. Ça fait quelque chose au cœur, c'est sûr.
Toujours sur la scène policière, Daniel Derry, cet homme qui a étranglé sa conjointe Francine Bissonnette, c'est en juin 2016 à Chambly, il va rester derrière les barreaux au moins 90 jours de plus. L'homme a été condamné à 12 ans de prison, devait retrouver une semi-liberté après seulement 5 ans de prison.
La fille de la victime, Geneviève Comartin, a indiqué sur nos ondes ce matin ce qui avait motivé ce rapport.
La semi-liberté a été annulée parce que le centre de transition où il devait faire une thérapie a décidé de le refuser. Semblerait-il que ça soit suite à tout le tapage médiatique qu'il y aurait eu à ce sujet. C'est ce qu'on m'a dit par téléphone.
Des partisans d'une réforme du scrutin critiquent vigoureusement le gouvernement Legault, affirment même qu'il s'apprête possiblement à trahir les Québécois dans ce dossier-là. Il y avait manifestation à Montréal plus tôt aujourd'hui. Les manifestants qui ont dénoncé le fait que le projet de loi visant à réformer le mode électoral, ce projet de loi-là est sur la glace depuis plus d'un an, malgré un engagement ferme du premier ministre Legault d'aller de l'avant.
Et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, fait partie de ceux que cette situation hérite au plus haut point.
Tout ce qu'on dit au premier ministre, écoutez, vous avez promis que vous ne feriez pas un Justin Trudeau de vous-même et que vous respecteriez toutes vos promesses. Votre ministre nous a dit encore au printemps dernier, mais le temps file, puis on commence à douter que vous allez faire ce que vous avez promis de faire.
Les données personnelles des clients de la société de transport de l'Outaouais n'ont pas été compromises dans une attaque informatique qui a été perpétrée au début du mois de septembre. Des données de quelques employés qui ont toutefois été affectés et des services leur ont déjà été offerts. Ce sont les premières informations qui ont été divulguées depuis cette attaque de type rançongiciel.
La STO indique avoir refusé de payer la rançon et que les cyberattaquants ont publié des dossiers exfiltrés sur le web clandestin. Par communiqué, elle rappelle aux usagers qu'il serait prudent de changer leur mot de passe. Un point de presse aura lieu lundi après-midi pour plus de détails.
L'homme accusé d'avoir blessé une policière par arme à feu cet été à Sainte-Marie-en-Beauce va avoir besoin d'un deuxième mois pour son évaluation psychiatrique. Donc, elle a pris du retard parce que Marco Rodrigue se méfiait des traitements prescrits par le psychiatre afin d'évaluer sa responsabilité criminelle dans cet événement survenu le 18 août. C'était en bordure de l'autoroute 73.
Marco Rodrigue s'est finalement engagé à collaborer. L'homme de 54 ans est accusé de tentative de meurtre, d'avoir occupé un véhicule où il savait qu'il y avait des armes à utilisation restreinte et d'avoir eu des armes en sa possession dans un dessin dangereux.
Et on termine notre tour d'horizon de l'actualité avec cette nouvelle de la presse qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui. Le comédien animateur Guillaume Lemaitre-Vierge qui refuse d'être vacciné, ben il vient de perdre un contrat. Guillaume Lemaitre-Vierge qui ne réalisera pas des épisodes de District 31 cet automne parce qu'il n'a pas reçu les deux vaccins contre la COVID.
Et le quotidien écrit qu'il pourrait aussi avoir des ennuis avec le réseau TVA où il anime Chanteurs masqués et Si on s'aimait, parce que à compter du 1er novembre, Québécois et ses filiales vont exiger le passeport vaccinal pour tout le personnel. Cet après-midi, le chroniqueur télé au quotidien Le Soleil, Richard Thérien, a indiqué que la prise de position du comédien pourrait lui faire perdre aussi un autre gros contrat, c'est-à-dire celui de porte-parole du constructeur automobile Hyundai.
Là, c'est pas lui nécessairement qui a sorti publiquement comme Anne Cazabonne l'a fait la semaine dernière. Elle qui était plus liée au Accès Pharma de Walmart quand même. Mais je veux dire, c'est très risqué là, de prendre des positions comme ça. Là. Il le sait, alors... Oui, c'est sûr que Hyundai va devoir prendre des décisions. J'imagine qu'ils vont peut-être sortir pour se dissocier de son opinion, de ses idées là-dessus. C'est à suivre.